Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Un cessez-le-feu accepté en Libye ce matin entre le gouvernement d'Union nationale, basé à Tripoli, et le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Après plusieurs mois de combats, une décision prise à la suite d'un appel en ce sens lancé par Moscou et Ankara. En République démocratique du Congo, les Nations Unies évoquent un possible génocide en cours dans l'est du pays, à la frontière avec l'Ouganda. L'ONU alerte sur les violences communautaires entre les groupes Emma et Lendu en Ituri. Les violences ont déjà fait plus de 700 morts en 2 ans. À Genève, Jérémy Lanche.
Ce n'est pas la première fois qu'un conflit éclate entre les Lendu, en grande partie des agriculteurs, et les Emma, éleveurs et commerçants. Les violences entre les deux communautés ont fait des dizaines de milliers de victimes entre 1999 et 2003. Le rapport de l'ONU évoque cette fois des attaques barbares, principalement contre les Emma, par des milices Lendu de plus en plus armées. Rupert Colville est le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Depuis juin dernier, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de violence. Les groupes armés sont devenus beaucoup plus organisés, avec des attaques plus systématiques et particulièrement cruelles. Les enfants sont devenus des cibles. Je vous donne un exemple. Le 17 septembre 2019, 14 déplacés internes ont été abattus et décapités. Sur ces 14 victimes, 12 étaient des enfants. Le plus jeune avait 7 mois, le plus vieux 15 ans. Ce sont des actes qui sont maintenant systématiques et largement répandus et qui peuvent donc constituer des crimes contre l'humanité.
Les forces de sécurité congolaises semblent dépassées quand elles ne se rendent pas coupables d'exactions, dit le rapport. Plus de 600 000 personnes ont déjà fui les violences. La plupart ont gagné le reste de la province de l'Ituri. D'autres ont trouvé refuge dans l'Ouganda voisin. Un génocide d'EMA est peut-être à l'œuvre, dit le rapport. Un terme suffisamment rare dans le langage diplomatique des Nations Unies pour qu'il soit pris au sérieux.
En France, le retrait de l'âge pivot proposé hier sous condition par Édouard Philippe, salué ce matin par le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, qui parle d'une victoire, ajoutant que le travail commence. Mais il s'agit d'un retrait temporaire, selon le Premier ministre, qui évoque plusieurs conditions. La CGT dénonce un enfumage uniquement destiné à rompre le front syndical. C'est aussi l'avis d'Éric Benel, porte-parole de Solidaire, au micro d'Antoine Geoffin.
Ce courrier ne change rien sur le fond. Le premier paragraphe précise et redit que le gouvernement veut mettre en place le système de retraite à points. Sur l'âge pivot, si on comprend bien, il le retire de manière provisoire en demandant à une conférence de financement de se réunir pour essayer de trouver des solutions dont il borne les possibilités, puisque le dernier paragraphe dit « ça peut pas être des mesures augmentant les cotisations et ça peut pas être des baisses des pensions ». Donc les seules mesures qui restent imaginables, c'est un report de l'âge de départ en retraite. C'est les seules solutions qu'il laisse, et il laisse faire le sale boulot à quelques organisations syndicales. Je ne comprends même pas que des organisations puissent se réjouir d'obtenir rien du tout. Nous, on pense qu'il faut continuer à élargir la grève. Elle s'est pas encore assez élargie. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont en grève, certains depuis très longtemps, notamment à la SNCF, à la RATP. On pense qu'il faut que d'autres secteurs rentrent dans le mouvement, les raffineries, l'éducation, le secteur privé. Tout le monde doit se mettre en route et construire un rapport de force suffisant. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. C'est pas possible.
L'intersyndicale appelle à 3 nouvelles journées de mobilisation mardi, mercredi et jeudi prochain. Un an après l'explosion de gaz rue de Trévise à Paris, qui avait fait 4 morts et 66 blessés, presque rien n'a changé dans ce quartier du 9e arrondissement. Sur les 400 résidents touchés par l'accident, 200 d'entre eux n'ont toujours pas récupéré leur appartement, Daphné Deschamps.
Le souffle de l'explosion avait partiellement détruit plusieurs immeubles et brisé les vitres de nombreux autres. Un an plus tard, les travaux sont au point mort car la justice bloque l'enlèvement des gravats. Dominique Paris est la présidente de l'association de sinistrés Trévise Ensemble.
L'enquête judiciaire est une enquête qui n'est pas contradictoire et donc il y a une procédure au civil qui a été lancée en décembre. Nous attendons la nomination du collège d'experts le 15 janvier et nous espérons avoir très rapidement un rapport d'expertise qui nous permette d'enlever les gravats du 6 rue Trévise. Le quartier n'est plus le même aujourd'hui. Les personnes n'ont pas encore réintégré leur logement. Si vous vous promenez un petit peu, vous verrez qu'il y a encore des plaques de verre ou des plaques de plastique sur certaines fenêtres, montrant qu'en fait les travaux n'ont pas pu être menés partout.
Dans l'attente de la décision de justice, la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkley, reste impliquée dans le dossier.
Depuis ce 12 janvier jusqu'à maintenant, je n'ai cessé d'être aux côtés des sinistrés, des blessés, des familles, pour les accompagner, répondre à l'extrême urgence d'abord, les aider dans leur démarche assurantielle, administrative, qui sont extrêmement faciles.
fastidieuse. Et également les aider à vivre cette procédure judiciaire qui s'annonce extrêmement longue. Et donc moi, mon rôle de maire, c'est de faire en sorte d'être en première ligne avec les sinistrés pour qu'on ne fasse pas de procédure dans la procédure.
Pour l'anniversaire de l'accident ce dimanche, la mairie et l'association Trévise Ensemble organisent une cérémonie d'hommage aux victimes avec une exposition photo des immeubles sinistrés.
La météo, des averses au fur et à mesure de la matinée, de la frontière belge jusqu'aux Charentes-Maritimes, du soleil au sud d'une diagonale qui s'étend de l'Alsace au Pays Basque. Les températures sont comprises entre 4 et 15 degrés, 4 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, 14 à Nice, jusqu'à 15 degrés à Ajaccio. C'est la fin de cette édition réalisée par François-Charles Domergue et avec Jean-Guilain Meige à la technique.